Ce jeudi, donc après l'Épiphanie, nous avons toujours la première lettre de Saint Jean dans laquelle nous avançons. Et je ne sais pas si vous allez peut-être vous en rendre compte, mais en tout cas moi je suis frappé de voir l'expansion, l'enrichissement que l'on rencontre au fil de cette épître, où donc nous évoquions hier le fait que... Bon, je l'avais dit, ou même avant-hier, que aimer et être né de Dieu, c'est une même chose. Je regarde ce que j'avais. Voilà, aimer, c'est une même chose. Et aimer, c'est être habité par Dieu. Et là, nous découvrons que ce que nous dit Jean avec pas mal d'insistance, c'est que... l'amour de Dieu ne peut pas être statique en nous. Et l'amour statique, c'est j'aime Dieu, mais mon voisin, moins, quoi. Voilà. Ben ça, c'est pas possible. C'est comme d'enfermer de l'eau dans sa main, quoi. Essayez d'enfermer la mer dans votre main, vous ne pourrez pas. Vous voyez, parce que cet amour, il ne peut pas ne pas se répandre. Il est en mouvement, en fait. L'amour de Dieu, c'est un mouvement qu'on ne peut pas stopper. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. Si nous stoppons l'amour de Dieu, il y a quelque chose en nous qui va commencer à pourrir. Et donc aimer Dieu, c'est un même élan qu'aimer son prochain. C'est tout un, en fait. À partir du moment où l'amour de Dieu est en nous, il ne peut pas ne pas se porter vers le prochain. Autrement dit, si nous pensons aimer Dieu et que nous nous replions sur nous-mêmes, cela signifie que ce n'est pas encore l'amour de Dieu qui nous brûle. C'est peut-être pour le moment l'idée de l'amour de Dieu, l'idée que nous nous en faisons. Mais en tout cas, ce n'est pas la plénitude de l'amour de Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas l'amour de Dieu, mais ce n'est pas la plénitude de l'amour de Dieu. Et Dieu est patient avec nous. Donc, je parle de mouvement. Ça montre aussi que le mouvement, peut-être progressif. Vous ne dites pas, ben ça y est, c'est foutu, moi, mon voisin, bon, ben voilà, attendez, ça va venir. Mais plus l'amour de Dieu entre en nous, plus nous sommes poussés à aimer le prochain, qui ne veut pas dire faire comme s'il était autre chose que ce que nous trouvons qu'il est. C'est-à-dire, il peut être barbon. Mais nous l'aimons pour d'autres raisons. Pour des motifs beaucoup plus profonds, parce que nous avons fait l'expérience que l'amour de Dieu en nous est parfaitement gratuit. Et je reviens sur ce que je disais il y a quelques jours. En fait, c'est cette découverte progressive que Jésus est mort à ma place. Que normalement, j'aurais dû me retrouver éternellement en enfer. Dans une situation de séparation définitive de Dieu. Imaginez-vous passer votre vie terrestre dans une cage sans aucune relation humaine. C'est une analogie, hein. Mais c'est pour vous dire que il faut essayer de trouver un moyen, au moins intellectuel déjà. Puis d'abord, évidemment, il y a la prière d'abord, hein, parce que le fait de prendre conscience que Jésus est mort à notre place, c'est un fruit de la prière. C'est pas la méthode Coué, quoi. C'est pas en le disant tous les jours que ça va rentrer. Donc ça, c'est il faut l'avoir clairement à l'esprit. La prière nous donne de découvrir l'amour de Dieu et nous donne progressivement d'aimer notre prochain de plus en plus en vérité et de nous étonner. Un jour de nous dire, mais c'est quand même incroyable que j'agisse avec amour à l'égard de cette personne que je supportais pas il y a 25 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 3 jours, que sais-je, voyez. Donc cette question de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, on pourrait dire en philosophie que c'est le principe de non-contradiction, quoi. Il ne peut pas y avoir deux choses opposées en même temps. On ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Eh bien, de la même manière, on ne peut pas aimer Dieu et détester son prochain en même temps et sous le même rapport. C'est absolument impossible. Si on le déteste, ça veut dire que l'amour de Dieu n'a pas atteint sa plénitude. Bon, ben, pas atteint plénitude, ça veut dire qu'il reste de la place, qu'il va falloir faire du ménage, qu'il va falloir se détacher d'un certain nombre de choses, en particulier de trouver ce qui m'empêche d'aimer mon prochain. Parfois, nous sommes exaspérés par les autres parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'excès de la qualité que nous, nous n'avons pas. Prenons un exemple pour me faire comprendre. Vous êtes exaspéré par quelqu'un qui est tout le temps en train de... pas dire de se faire remarquer, mais qui est très à l'aise dans toutes les relations. Et vous dites, mais il pourrait peut-être se la fermer, lui, c'est quand même insupportable, quoi. Et en fait, vous allez peut-être découvrir, c'est pas forcé, hein, mais vous allez peut-être découvrir d'abord que c'est curieux comme réaction, parce qu'à la limite, qu'est-ce que ça peut vous faire? Et puis vous allez peut-être découvrir que, bah oui, mais moi, en fait, je suis timide, et j'aimerais bien être à l'aise au milieu des autres. Et en fait, de voir cette personne qui naturellement est à l'aise au milieu des autres, m'exaspère parce qu'il a ce que j'ai appelé l'excès de la qualité que je n'ai pas. C'est un peu excessif, il est exubérant, on dit en français. Et ça m'agace, mais en fait, ce qui m'agace, c'est qu'il a naturellement une qualité que je n'ai pas, naturellement, qui est d'être à l'aise avec les autres. Pour donner un exemple, hein, pour comprendre. Voilà, donc on peut s'agacer de l'autre et puis découvrir qu'en fait, ben non, tu vois, bon, peut-être c'est exaspérant, mais qu'est-ce qui fait qu'il est à l'aise? Peut-être que c'est anormal, hein, peut-être que c'est excessif chez l'autre. Mais ça permet de désamorcer et de se dire, en fait, ce n'est pas une cause ni de l'aimer ni de le détester. S'il y a un excès chez lui, ben, on peut peut-être prier pour. Mais voilà, en fait, je découvre que le problème, il est chez moi, quoi, pour le dire d'une autre manière. Et il n'est pas chez lui. Au deuxième paragraphe revient encore hein, cette idée de la foi comme engendrement. Hein. Celui qui croit que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Donc ça, c'est l'engendrement qui donne la grâce d'aimer et donc d'être fils dans le Fils. Donc vous voyez, on revient encore sur cette idée que être aimé, être né de Dieu, aimer son prochain, c'est tout un. Et en fait, c'est tellement un que c'est une personne, et cela s'appelle, et cette personne s'appelle Jésus. Jésus, il est né de Dieu. Il aime Dieu, forcément. Il aime son Père. Et il est le Verbe est Dieu. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur de l'union hypostatique, c'est particulier. Ceci dit, on a le devoir de s'aimer soi-même de toute façon, puisqu'on vient de Dieu. Et Jésus dira lui-même, je viens du Père et je retourne vers le Père. Et donc cet amour de Dieu, d'être né de Dieu, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, eh bien ça atteint sa, cette vérité atteint la parfaite réalisation en Jésus, précisément. Voilà. En Jésus, ces trois vérités, qui sont la même, a atteint sa perfection. Vous voyez. Être né de Dieu, dernier, à la fin de cette lecture, c'est être vainqueur. C'est-à-dire que quand on est vainqueur, ça veut dire qu'on n'a plus peur de mourir, en fait. Vous voyez, parce qu'on sait que c'est gagné. Que l'on meure ou que l'on ne meure pas, c'est gagné. Et donc, parce que Jésus a gagné, et donc tout est déjà terminé. Donc, vous voyez, cela doit chasser la peur, Ça peut ne pas chasser la crainte de la souffrance. On peut voilà, avoir peur de souffrir, d'être martyrisé. Une expérience que j'ai pas faite. Hein, donc voilà, on peut avoir peur. Le mal, ça fait peur. Mais on peut aussi, nous savons aussi dans la foi que Jésus a gagné. Et en fait, c'est ce par quoi finit Jean en disant tel est ce que nous croyons, c'est-à-dire telle est notre foi. Voilà, nous croyons. Donc vous voyez, je reprends encore une fois ce résumé. Être né de Dieu, aimer son prochain, c'est tout un. Alors ça signifie que si vous avez du mal à aimer votre prochain, ce qui nous arrive peut-être à certains moments, eh bien, peut-être que vous avez besoin de nourrir en vous cette vérité d'être enfant de Dieu, d'être né de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Quelles sont les ramifications de cette vérité? Qu'est-ce que ça implique? Où est-ce que je renonce, à quel endroit, où est-ce que je renonce à être fils de Dieu? Où est-ce que je dis à Dieu, non, là, je ne veux pas être ton fils. C'est trop dur, c'est trop difficile. Ou ta fille, hein, bien sûr, hein, c'est pas, ça marche, ça n'a pas de, j'allais dire, ça n'a pas de sexe, si je puis dire. Vous voyez quoi, c'est l'âme. Les âmes sont asexuées. Hein. C'est le corps qui est sexué. Donc, où est-ce que mon âme refuse cette filiation divine? Ou bien peut-être l'amour de Dieu en moi n'atteint pas sa perfection parce que je considère que j'ai prié et que Dieu m'a pas exaucé. Voilà. Alors, il faut purifier, voir qu'est-ce qu'il y a à purifier dans ce Dieu magique qui devrait m'obéir parce que je lui ai demandé et que je crois qu'il est tout-puissant. Mais peut-être que j'ai pas bien compris un certain nombre de choses et que j'ai un chemin à faire, une bagarre à mener pour comprendre cela, pour découvrir qui est vraiment Dieu, quel est cet amour. Et il est possible qu'au fond, je n'irai pas pour résoudre ça, mais que ce chemin passe par une méditation très profonde de la passion de Jésus. Vous voyez, je crois que quand nous manquons d'amour envers le prochain, c'est précisément que nous manquons de lumière sur l'amour de Dieu pour nous. Ça me paraît assez lumineux, cette affaire-là. Voilà, et puis, alors juste un tout petit mot sur l'Évangile, hein, pour dire que ben, cette vie, ce mouvement, nous le voyons en acte dans l'Évangile du jour. Et Jésus, dans la puissance de l'Esprit-Saint, bouge, il va en Galilée, et il n'a pas peur de parler. Et tout le monde le regarde, et il n'est pas impressionné. Jésus bouge et annonce, et il aime, car l'Esprit-Saint le meut. C'est l'Esprit-Saint, le mouvement. Oui. Peut-être aussi, donc j'ajoute ça à ce que je disais tout de suite, peut-être que l'amour du prochain chez chacun de nous, il est handicapé par un refus de croire au Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est assez simple hein, à croire. Je me souviens d'une retraite du Père Joël Guibert qui nous avait dit ça un jour, et qui disait, voilà, en fait, croire au Saint-Esprit, c'est assez simple. Vous faites du stop sur la route, vous montez à l'arrière, et au premier virage, vous voyez qu'il n'y a personne au volant. Donc ça peut foutre la trouille, objectivement. Sauf que la voiture a tourné. Et vous vous dites, ouais, une fois c'est du bol, est-ce que ça va retourner dans l'autre bord, dans l'autre sens, quand il y aura un autre virage? Donc le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais c'est cette confiance. Alors évidemment, hein, il avait ajouté, il ne s'agit pas de jeter les clés dans l'océan et de dire au Seigneur, merci de m'aider à les retrouver, quoi. Enfin, faut assumer ses âneries aussi. Hein. Mais voilà, cette foi en l'Esprit-Saint, qui tout doucement va nous inviter à nous détacher de quelque chose. Pourquoi? Parce que ça empêche l'amour de Dieu de venir en toi. Et donc ça t'empêche d'aimer ton prochain. Voilà. Donc tout ça peut forcément nourrir en nous la contrition, c'est-à-dire le regret de nos attachements, de nos tâches. On peut faire un jeu de mots avec attachement et tâches. Le regret de tout ça qui nous empêche de laisser l'amour de Dieu nous remplir en plénitude et donc nous faire que nous aimions le prochain sans limite, c'est-à-dire comme Jésus l'a fait, donnant notre vie pour nos frères.